Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
What time is it? Yeah, no. Time is it? Yeah, no. Don't do that. What time is it? Yeah, no. What time is it? Yeah, no.
Hello, bonjour à tous, nouvel épisode, nouvelle pastille, et aujourd'hui Miami Dolphins number one, évidemment, pour m'accompagner Jean-Michel, bonjour à toi.
Salut Victor, bonjour tout le monde.
Bah, c'est terrible, dès qu'on parle des Dolphins, ça revient dans la tête. Alors là, j'espère que vous avez prévu 1h30 d'émission, c'est plus une pastille, là, c'est une émission podcast hein, qu'on va faire, parce qu'il y a à peu près 97 choix de draft à analyser. Non, j'exagère évidemment un peu, mais il y a deux premiers tours, deux seconds tours, et ça sera encore dans le même genre l'année prochaine. Pour ceux qui n'ont pas suivi, juste avant de parler des besoins, les Dolphins qui avaient le troisième choix l'ont échangé avec San Francisco contre 12e, avant de remonter en 6e dans un échange avec les Eagles. Donc aujourd'hui, le premier choix des Dolphins est donc le 6e. Jean-Michel, avant de rentrer en détail dans les choix, dis-nous quels sont pour toi les principaux besoins de cette équipe.
Bah, je pense qu'en premier, c'est quand même la ligne offensive. Elle a été adressée l'année dernière avec Austin Jackson qui a joué à gauche. Ils ont pris également Robert Hunt, que je n'enterre pas du tout, mais peut-être quand même qu'ils ont besoin encore d'un tackle sur ce côté droit, je pense. Après, peut-être linebacker. Alors oui, ils ont signé Bernardrick McKinney, mais je pense que le poste de linebacker est encore à adresser du côté de Miami, surtout qu'on connaît l'appétence de l'entraîneur Flores pour les linebackers. Le poste de free safety aussi est un besoin dans cette équipe. Alors, ils ont des joueurs là aussi, mais rien d'exceptionnel. Receveur, toujours. Il y a toujours besoin de cible pour Tua Tagovailoa, donc un receveur. Et puis, évidemment, un coureur numéro 1, parce que là aussi, ils ont un comité avec de bons joueurs, mais ils n'ont pas vraiment de running back numéro 1.
Oui, je pense que globalement, ces besoins, ils ont été identifiés par beaucoup de monde. C'est une équipe beaucoup plus complète qu'elle n'était il y a un an, même si le départ de Van Noy fait un peu mal, mais globalement, ça reste un effectif qui a beaucoup de talent. Et ils ont encore beaucoup de choix pour répondre à tous ces besoins, justement au premier tour. Au premier tour, donc si déjà on part au sixième choix, je crois que toi, ta logique, c'était plus de trade down ou de prendre, parce que je vois que ton premier choix, c'est Rashawn Slater. Mais du coup, tu l'imagines en 6 ou tu l'imagines, là encore, ils vont un peu aller dans tous les sens et trade down pour accumuler les picks?
Non, moi je l'imagine en 6. D'accord. Je l'imagine en 6 parce que c'est un très bon joueur de ligne offensive qui jouait à gauche avec Northwestern, un style très agressif, même si on ne l'a pas vu en 2020, mais on en a vu tellement en 2019. Mais je pense qu'il fera un très bon tackle droit en NFL. Et je pense qu'ils ont vraiment besoin de ça. Il ne faut pas oublier que Tua est gaucher, donc du coup, le côté droit est hyper important. Autant laisser Austin Jackson à gauche, qui est un joueur très jeune, donc ne pas le changer de côté, et tu mets un tackle droit à droite, Slater. Alors après, à 6, de toute façon, les options sont vraiment ouvertes. On pourrait parler de Micah Parsons, on pourrait parler de Devonta Smith ou de Jamar Chase. Mais moi, je pense que Rashawn Slater, ça serait le meilleur choix pour eux avec le numéro 6.
Non, c'est intéressant, moi. J'adore ce joueur. Donc, évidemment, je pense qu'à droite, il est encore mieux qu'à gauche. Et comme tu le dis, autant prendre le meilleur tackle droit disponible, vu que tu as un quarterback gaucher et t'es la seule équipe de NFL aujourd'hui à avoir cette caractéristique. Donc, autant en effet travailler là-dessus, je suis totalement d'accord. Et pour prolonger dans ce premier tour, Tu nous as choisi, alors, quelque chose qui n'est pas dans les nids que tu as évoqué, ou en tout cas, peut-être pas directement, c'est le Edge Aziz Ojulari. Mais je suppose que dans le système Flores, tu l'imagines plutôt en deuxième rideau, du coup ?
Oui, oui, exactement, oui. Parce qu'il joue quand même souvent dans une 34, donc... Et puis, je ne l'ai pas précisé, mais ça fait partie aussi de ses needs. Ils n'ont pas vraiment un joueur comme ça, fluide et rapide sur les extérieurs. Alors, il y a bien Andrew Van Gickel, je ne l'oublie pas, mais il faut un joueur avec un autre profil tout de même, tu vois. Ils ont perdu Shaq Lawson, et Aziz Ojulari, mais voilà, c'est un joueur hyper rapide. Alors, il est encore jeune, il y a encore du travail à faire avec lui, mais il vaut largement un premier tour, parce qu'il est très athlétique, c'est un joueur très intelligent, qui peut faire beaucoup de choses, y compris s'écarter pour défendre en couverture, et puis pour attaquer la poche, c'est un vrai démon. Je veux dire, les Dolphins, ils ont une première rideau qui est quand même assez impressionnant, avec Wilkins, avec Raquan Davis, avec Ogba, mais si tu rajoutes Ojulari juste derrière eux pour contourner le coin, ah, ça peut vraiment faire des dégâts. Donc du coup, ouais, moi au premier tour, là aussi, je bypass un petit peu le besoin de receveur et j'y vais avec un pass rusher.
Alors, je suis totalement d'accord avec ça pour une simple et bonne raison, c'est qu'Ojulari, je pense que bien coaché, ça peut devenir le meilleur edge de cette draft sans aucun doute, et que je fais largement confiance à Flores pour développer ce type de joueur. Moi, c'est vrai que j'étais plutôt parti sur un linebacker, hein, alors soit un linebacker pur, style Zaven Collins, soit un linebacker safety type Jock, Jeremiah Owusu-Koramoah. Mais bon, globalement, je pense qu'il faut renforcer, mine de rien, la défense, qui est déjà excellente, mais qui, avec un peu plus de profondeur, pourrait être la meilleure de la ligue. Donc oui, c'est un besoin qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas tout mettre sur l'attaque, même s'il faut soutenir, évidemment, Tua Tagovailoa, pour être sûr qu'il performe dans sa deuxième année. Et justement, pour le soulager un petit peu, dès le début du deuxième tour, toi, tu vas sur un des deux running backs les plus en vue de cette draft. Tu vas sur Travis Etienne de Clemson.
C'est ça, exactement. Voilà un playmaker pour aider Tua Tagovailoa. Parce que c'est un coureur qui est explosif, un coureur qui a des cuts très rapides, qui peut courir à l'intérieur, qui peut courir à l'extérieur. Et en plus, puisqu'on parle de soulager Tua, le quarterback, voilà, c'est un joueur qui a de bonnes mains. Alors, il n'a pas un arbre de tracé comme un receveur, mais par contre, en situation de blitz, par exemple, il peut tout à fait se démarquer, capter une screen et ensuite, avec son explosivité, gagner des yards à la course. Donc, les Dolphins ont déjà des coureurs plutôt puissants pour, sur les tentatives courtes, mais ils n'ont pas ce joueur vraiment dominant qu'est Travis Etienne.
Alors, je suis d'accord. En plus, c'est quand même un joueur qui a vraiment progressé en réception de passes, donc ça peut aussi devenir une soupape de sécurité pour Tua. Donc c'est un joueur, si tu lui donnes en screen la passe, il peut en faire des belles choses, donc autant en profiter, je suis assez d'accord avec toi. Ça me paraît autant, les gens le savent, plus je peux retarder le choix d'un running back à la draft, mieux je me porte, mais des équipes qui ont des picks à foison, comme les Dolphins et les Jaguars, bah, quand on a envie, tu le prends, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave de mettre une fin de premier tour ou un début de second sur un coureur. Si t'as vraiment envie de ce mec-là, bah vas-y. Et du coup, dans un deuxième temps, tu nous as choisi... Alors là, on renforce encore la défense, mais on va sur le rideau, le dernier rideau, parce que tu nous as choisi un safety, Richie Grant de UCF.
Ouais, super joueur, super joueur. C'est quelqu'un qui est très très bon en couverture. On l'a encore vu au Senior Bowl où il était testé comme cornerback et il a très bien tenu sa place. C'est un safety, voilà, des capacités de couverture, qui est bon aussi en run stop, qui est des bonnes qualités athlétiques. Moi, je pense que c'est le deuxième safety de cette QV. Alors, il y a Trevon Morrig de TCU. Et puis ensuite, moi, je mets Richie Grant directement en numéro 2. C'est vraiment un très bon safety. Et je pense que c'est le profil qui manque justement à Miami, ce type-là de free safety très bon en couverture. Donc, le mettre au milieu, tu vois, des cornerbacks Xavier Howard et Byron Jones, et là, tu es tranquille.
Alors, je suis d'accord avec toi. Je suis d'autant plus d'accord qu'en fait, j'avais la même stratégie que toi, mais inversée. C'est-à-dire que moi, pour être sûr de l'avoir, j'ai pris Trevon Morrig justement au début de second tour. Quitte à n'avoir que le troisième receveur de la QV, Javonte Williams, en fin de second tour. Donc c'est vrai que la logique est la même, et je pense qu'on est tous les deux d'accord sur les besoins qui doivent être adressés. Et au troisième tour, parce qu'il y a un moment, il va quand même falloir prendre des cibles pour Tua. Heureusement, c'est une draft très profonde. Tu pars du côté des Tar Heels de North Carolina, puisque tu prends Diami Brown.
Ouais, exactement, Diami Brown. Alors, ils ont pris Will Fuller quand même, déjà, donc avec Fuller, avec Parker, avec le jeune Preston Williams, ça fait une bonne petite unité déjà. Mais tu rajoutes Diami Brown, ah, j'adore ce joueur avec North Carolina. C'est quelqu'un de très fiable, qui court de bons tracés et qui a une super vitesse aussi. On l'a encore vu lors du Pro Day, il a fait un 4.46. C'est quelqu'un, voilà, qui va attaquer la profondeur, mais pas que. Il peut jouer à l'extérieur, il peut faire beaucoup de choses, notamment des tracés slant, des tracés comeback. Moi, je pense que ce serait une très bonne pioche. Et d'ailleurs, tu vois, je le place au troisième tour, mais j'ai quand même un petit doute au fond de moi qu'il soit encore disponible au troisième tour.
Ouais, ouais, mais je suis assez d'accord avec ça. Moi, c'est un de mes chouchous. Je l'ai très haut. Au niveau de mes notations, moi, il a une note de début de second tour. Alors, il ne sera peut-être pas de début de second tour quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais je pense que s'il tombe en troisième, ils auront eu de la chance. Mais après, encore une fois... on l'a dit, Miami a des pics, a pu savoir quoi en faire. Donc, s'ils ont envie d'avoir 3 second tours, ils peuvent très bien avoir 3 second tours aussi. Donc, cette logique-là, là, c'est vrai que pour la construction de la pastille, on a mis tour 1, tour 2, tour 3. Mais si Miami veut faire tour 1, 4 tour 2, 3 tour 3, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, à un moment, c'est si tu as un joueur dont tu es amoureux, vas-y, fonce.
Oui, et puis il faut des cibles pour Tua Tagovailoa. Il en faut. Il en faut pas deux, il en faut pas trois, il en faut au moins quatre, cinq. Enfin, il faut multiplier les cibles. Donc, allons-y.
Totalement d'accord.
Et d'ailleurs, je continue avec mon sleeper.
Et tu continues avec ton sleeper, et oui, puisque tu as pris Emir Smith-Marset, donc de Iowa. Donc, explique-nous ton amour pour le receveur de Iowa.
Parce que c'est un joueur qui contribue depuis plusieurs saisons déjà dans une bonne conférence, la conférence Big Ten, ça joue physique. Alors, il n'a pas un gros gabarit, mais même si ça joue physique, il n'y a pas de problème pour lui. Il fait des bons tracés, il est très rapide. Et en plus, ce qu'il a, c'est que c'est un très bon retourneur. Et ça, c'est important aussi pour une équipe, pour l'équipe spéciale. Donc, c'est un joueur qui, tu vas le mettre en équipe spéciale, il va retourner les coups de pied, il va t'apporter. Et c'est un joueur que tu mets dans ton escouade, en développement, et voir dans la rotation comment il se développe.
Non, bah c'est évident. Je pense que ça fait partie de ces équipes. Ils peuvent, s'ils veulent, prendre deux receveurs, voire deux running backs pour faire de la profondeur. Enfin, ils peuvent se permettre de voir loin, on va dire. Et je pense que c'est important pour eux de faire ce genre de choix. Moi, j'ai changé de sleeper, je ne te l'ai pas dit, mais bon, c'est moi le présentateur, donc du coup, c'est pas grave. J'ai changé de sleeper, en fait, en cours de route, parce qu'il y a un joueur, mais alors, je sais que certains vont trouver que ça peut faire doublon avec Travis Etienne, mais moi, dans ma logique de j'ai pris Javonte Williams, j'avais envie de mettre un CJ Marable de Coastal Carolina. Tu vois, me dire, ok, j'ai Javonte Williams, donc super coureur, super impact, super physique, et rajouter ce petit feu follet, cette petite touche d'imprévisible, ce petit joueur qui va faire les réceptions, les courses, qui vont te permettre de débloquer une situation. Je me dis, franchement, autant avoir autant de playmakers que possible autour de Tua, autant l'aider à maximiser son potentiel s'il en est encore physiquement capable. Donc, pour une fois, c'est moi qui parle de Coastal Carolina. Et je me dis que voilà, un petit CJ Marable, j'aime bien. J'aime bien dans cette équipe.
Ah oui, je valide à 100%, forcément. Hein. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Parce que c'est un coureur, il se faufile bien entre les défenseurs. Mais c'est aussi voilà, sa capacité à la passe. Il attrape très bien les ballons et puis il gagne des yards ensuite. C'est vraiment un running back de complément parce qu'il manque de gabarit, mais c'est vraiment un bon running back qu'on verra en NFL. Je valide 100%.
Et ben voilà, on a fait le tour. On aurait pu vous donner encore 45 choix pour les Dolphins, mais la réalité, c'est que tout est possible avec cette équipe. On n'oublie pas évidemment du coup le linebacker, on va dire le poste de linebacker pur, j'en ai parlé, qui peut aussi être un besoin. Globalement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et la question à 40 millions d'euros par saison, c'est Tua peut-il redevenir le Tua dominant qu'il a été à Alabama maintenant que ses blessures sont quand même loin et qu'il a fini de se reconstruire. Donc les Dolphins auront de nombreuses raisons de s'enthousiasmer l'année prochaine et de nombreux jeunes joueurs à regarder. Donc, on a fait les Dolphins, et je vous le dis tout de suite, petit teaser, demain, Jean-Michel est chaud, parce qu'on va vous parler d'une équipe...
Chaud patate.
D'une équipe qui déménage tous les 5 ans, donc qui est en ce moment à Las Vegas, les Raiders. À demain pour de nouvelles aventures.